Mode Urbain, l'émission qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativet et pour ce troisième épisode de la série « J'ai mal à mon hôpital », nous allons nous intéresser au virage ambulatoire et à ses conséquences sur la prise en charge des patients. Pour comprendre cette incitation à l'ambulatoire, c'est-à-dire aux hospitalisations courtes, il est nécessaire de revenir sur la manière dont s'est construit l'équilibre entre l'hôpital et la médecine de ville. Avec la sociologue Fanny Vincent, on reviendra alors sur la réforme Debré, qui en 1958 crée les CHU et met l'hôpital au cœur du système de santé. C'est justement cet hospitalocentrisme qui est remis en cause et sur lequel nous allons nous arrêter au début de cet épisode. Avec Fanny Vincent, on a échangé sur cette idée que l'on serait mieux chez soi qu'à l'hôpital, formule chère des défenseurs de l'ambulatoire. Elle reviendra sur la logique gestionnaire qui se cache derrière cette phrase et rappellera les disparités sociales et géographiques d'accès aux soins. Puis, nous quitterons l'hôpital pour s'intéresser aux infirmières libérales et à la prolifération de nouveaux acteurs privés qui se retrouvent à gérer les soins à domicile. Marceline, d'abord, nous racontera son quotidien d'infirmière libérale dans une petite ville de la région Centre et nous fera part des différentes évolutions de son métier. Valentine, quant à elle, nous racontera son parcours d'infirmière et nous fera découvrir son métier de prestataire santé. Toutes deux nous feront part des conséquences du virage ambulatoire sur leurs activités et sur la prise en charge du patient.
La réforme Debré crée les CHU, qui fait de l'hôpital l'hôpital moderne, l'hôpital centre de la santé, centre du système de santé, l'hôpital de l'excellence, l'hôpital de la médecine de pointe, et donc qui organise tout le système autour de l'hôpital. Donc c'est l'État lui-même, en fait, qui crée cet hospitalocentrisme dans les années 50 pour redorer la médecine et l'inscrire dans une médecine moderne des pays occidentaux. Et aujourd'hui, cet hospitalocentrisme, il est au centre des critiques de l'État et des réformes, parce qu'il coûterait trop cher, parce qu'il serait absurde d'un point de vue sanitaire de se faire soigner toujours à l'hôpital, ce qui est vrai. Hein. C'est pas pertinent aujourd'hui que, et ça ne l'a jamais été vraiment, que l'hôpital soit le centre du système de santé. Par contre, revoir l'organisation du système de santé et décharger l'hôpital d'une partie de ses tâches, c'est important, mais ça ne peut se faire que si l'amont et l'aval de l'hôpital sont correctement organisés, c'est-à-dire la médecine de ville, par exemple, en amont, et en aval, par exemple, les soins de suite et de réadaptation, les EHPAD, etc. Or, aujourd'hui, ces deux secteurs, ils ne sont pas suffisamment structurés, n'ont pas suffisamment de moyens pour certains. Et donc, décharger l'hôpital, ça risque de se faire au prix d'une augmentation des inégalités ou au prix d'un non-recours à des soins pour une partie des patients ou voilà, l'augmentation des inégalités, encore une fois. À la fois territoriale et à la fois financière. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui la médecine de ville, donc les médecins généralistes, les médecins spécialistes essentiellement qui travaillent en libéral, ce qu'on constate, c'est que la sécurité sociale s'est massivement désengagée du remboursement de ces soins-là. Aujourd'hui, pour les soins courants, c'est 55% qui sont remboursés en moyenne, ce qui est quand même très peu. Il y a un recul croissant ces dernières années parce qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle les restes à charge, franchis sur les médicaments, le 1 euro de consultation qui n'est pas remboursé. Il y a aussi la question des dépassements d'honoraires. Beaucoup de choses ont été dites sur les dépassements d'honoraires dans les annonces des différents gouvernements, mais en réalité, peu de choses ont été faites pour encadrer ces dépassements d'honoraires. Tout ça, d'un point de vue financier, ça a des impacts sur le non-recours aux soins pour des raisons financières. Puis, évidemment, d'un point de vue géographique, d'un point de vue territorial, il y a des inégalités très fortes de répartition des médecins et des spécialistes sur le territoire. Mais ça, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on découvre aujourd'hui les déserts médicaux, mais depuis le 19e siècle, hein, c'est quelque chose qui est connu. Là. C'est lié à l'identité libérale de la médecine et au fait qu'il n'y a pas d'obligation d'installation dans tel ou tel territoire pour les médecins. Et puis des délais de consultation qui sont très longs pour certaines spécialités, des hôpitaux et des services qui ont été fermés dans certains territoires qui accroissent ces inégalités territoriales.
Mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps, je pense à plusieurs choses là, aussi un paradoxe sur à la fois cette volonté de quitter justement cette vision hospitalo-centrée, les outils qui vont être utilisés pour en sortir, notamment le fait de favoriser le tout ambulatoire, de venir mesurer la durée moyenne de séjour, etc. Donc là, il y a quand même cette volonté de faire en sorte que les personnes restent le moins possible à l'hôpital et de tenter, pour reprendre les termes, de proposer une offre à l'extérieur. Il y a en même temps, toujours, avec la mise en place des groupements hospitaliers, il y a quand même toujours cette idée de créer des gros pôles hospitaliers.
Il y a les deux tendances, un regroupement autour de certains gros pôles que sont les CHU et de l'autre, fermeture de certains services et de certains hôpitaux dans les territoires ruraux qui sont des petits hôpitaux. C'est toujours la logique en fait de regroupement parce que big is beautiful, il faut faire de l'excellence. On cherche à faire des hôpitaux, des pôles compétitifs sur le plan international au niveau de l'enseignement, de la recherche, des soins de pointe. Donc si vous voulez, il y a ce mouvement de regroupement des hôpitaux. En même temps, ça vise à rationaliser aussi les moyens. On regroupe des laboratoires d'analyse médicale, on regroupe ce qu'on appelle les fonctions support, par exemple la lingerie, par exemple la restauration, plusieurs services qui sont regroupés dans une logique de réduction des coûts, qui n'est pas toujours critiquée non plus sur le terrain, parce qu'il y en a qui considèrent que, notamment des professionnels, hein, qu'il y a des économies qui peuvent être faites là-dessus, parce qu'il n'y a pas besoin que chaque hôpital ait son service de lingerie ou son service d'analyse médicale, etc. Donc d'un côté, on a ces regroupements pour créer des gros pôles hospitaliers d'excellence avec une rationalisation des moyens, donc une diminution des coûts. Et de l'autre, ce qu'il faut voir, c'est que ces regroupements se font aussi au prix d'une externalisation et d'une privatisation d'une partie des missions hospitalières traditionnelles que sont l'accueil et le suivi des patients. C'est là où on peut coupler avec ce tout ambulatoire, ou surtout appelé le virage ambulatoire dans la communication politique, c'est-à-dire un hôpital recentré sur des missions très précises, des soins de pointe, des soins d'excellence, des soins de réanimation, de greffe, de dialyse, ce genre de choses, une chirurgie. Et puis tout le reste, la médecine interne ou la gériatrie, parfois aussi la pédiatrie, et bien tout ça, c'est de plus en plus soit externalisé et renvoyé vers la sphère privée. Donc vous venez pour votre intervention en ambulatoire et puis vous rentrez chez vous le soir même. Donc le suivi de votre hospitalisation, si vous voulez, il se fait essentiellement chez vous, par vos proches si vous en avez, et puis à distance avec l'hôpital par SMS des fois. Et puis sinon, cette privatisation, elle passe aussi par le transfert de ces activités à des acteurs privés hospitaliers, lucratifs ou non lucratifs, ça dépend. Sur ce virage ambulatoire, l'idée, c'est, les termes de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales, l'idée, c'est de générer des doubles dividendes, c'est-à-dire à la fois pour l'hôpital d'économiser le coût des nuits, le coût des lits et le coût des équipes de nuit qui travaillent, tout en améliorant, a priori, la qualité des soins, parce que en ne passant pas la nuit à l'hôpital, les patients ne développent pas, par exemple, d'infections nosocomiales.
Pour avoir réalisé des entretiens avec des cadres de santé, notamment des cadres supérieurs, j'ai le souvenir d'une phrase qui, pour justement venir privilégier l'ambulatoire, de dire on est quand même mieux chez soi qu'à l'hôpital. Je trouve que c'est assez intéressant. Il me semble que c'était un article de Frédéric Pierru qui revenait notamment sur la question des maladies nosocomiales, des choses dont on ne parlait pas forcément et qui étaient plutôt tabous au sein de l'hôpital. Et alors maintenant, ça avait été un peu utilisé comme un argument pour venir limiter en fait, le séjour à l'hôpital, ce qui n'est quand même pas très valorisant pour l'hôpital.
Absolument. C'est intéressant d'observer ce retournement en fait, qui avant était identifié comme un argument pour noter la qualité des prises en charge à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un taux de maladie nosocomiale important ou pas? Je crois que ça rentre dans le classement que fait Le Point, par exemple, sur les hôpitaux chaque année. Et aujourd'hui, donc, cette idée de limiter la présence pour éviter les infections nosocomiales vient justifier en fait, l'externalisation et la privatisation de ce suivi et de cet accueil des patients, qui sont encore une fois des missions historiques de l'hôpital. Avec l'argument qu'il y a derrière, donc au-delà des maladies nosocomiales, qu'on serait mieux chez soi, il y aurait plus de confort, etc. On serait moins anxieux que d'être à l'hôpital. On mangerait mieux en plus chez soi qu'à l'hôpital. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est tous égaux devant ce chez soi? Qu'est-ce que c'est que le chez soi? Il y a plein de personnes qui n'ont pas un chez-soi accueillant, qui n'ont pas un chez-soi tout court, ou qui n'ont pas de domicile adapté parfois à leur retour un peu précoce chez eux. Et puis, encore une fois, cette anxiété qu'on n'aurait pas en étant chez soi, ce n'est pas toujours vérifié parce que ça dépend de l'opération que vous venez de subir. Les patients n'ont pas tous le même degré d'inquiétude, n'ont pas tous le même rapport à leur santé. Il y en a qui se sentent plus en sécurité, entourés à l'hôpital de professionnels.
Et vous rappelez notamment dans votre ouvrage que le coût de l'hôpital public français est de 0,5 points du PIB, qui est inférieur à la moyenne des pays analogues. Et justement, pourquoi ce chiffre est rarement rappelé en fait?
Il n'y a pas véritablement d'intérêt de montrer que l'hôpital ne coûte pas trop cher parce que le coût de l'hôpital justifie, un petit peu comme la politique des caisses vides, justifie des privatisations et l'externalisation de certaines activités de l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital public, c'est un service public qui est considéré comme idéologiquement trop dépensier par rapport au poids des dépenses publiques. Et donc, ce qu'on constate dans les politiques qui sont menées par les différents gouvernements, c'est une volonté de réduire la part de l'hôpital, peu importe son coût, dans les dépenses publiques. En gros, l'idée, c'est de privatiser le service public, de continuer à assurer un service public, mais qui n'aurait de public plus que le nom, parce que L'idée, c'est de le faire assurer par des acteurs privés, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs. Mais je vous dis tout ça parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans Mediapart le 1er avril sur la note de la Caisse des dépôts et consignations qui a fuité sur ce fameux plan massif pour l'hôpital et qui montre qu'en fait, sauver l'hôpital ou en tout cas renforcer l'hôpital, ça équivaut en fait à déléguer à des acteurs privés, à des start-up, à des grands groupes et bien tout un tas de missions qu'assurait aujourd'hui l'hôpital public. Donc, c'est continuer à faire du service public avec des acteurs privés.
Je m'appelle Marceline, je suis diplômée de 1996. Donc, j'ai commencé à travailler en hôpital public, dans différents hôpitaux et notamment dans un grand CHU pendant 7 ans. Et c'était plutôt en psychiatrie. Et j'ai déjà vu en 7 ans les changements et l'arrivée de la T2A, qui est connue maintenant à la tarification à l'acte, où on commençait à nous demander de tout calculer, c'est-à-dire combien de temps la personne est restée. Quand on faisait nos commandes de pharmacie, c'était attention, pas trop de stock, bien gérer, les commandes de matériel, j'en parle même pas. On était devenus à calculer, en fait, et ça, c'était pas possible pour moi, parce qu'il y avait plus d'humanité, et encore plus en psychiatrie, où j'avais fait ce choix. Parce que c'était l'humain, et j'avais l'impression qu'on s'en écartait, c'était plus possible pour moi, et sur vraiment un coup de tête, on ne peut pas dire autrement. J'ai rencontré un jour une infirmière libérale que je connaissais, et vraiment parce que je n'en pouvais plus, je lui ai demandé si elle cherchait une collègue, et le hasard a fait qu'elle m'a dit oui. Donc je suis arrivée dans le milieu libéral fin 2003. Nous, ce qu'on nous demande en libéral, c'est de faire des actes. C'est-à-dire que nous, on a peu de rôle propre, c'est-à-dire qu'on travaille sur la prescription d'un médecin qui nous demande de faire tel acte, tel acte, tel acte. Au début, les soins, c'était des soins très simples. J'avoue que j'avais très peur parce que je connaissais pas du tout ce milieu. Et en fait, à l'époque, on avait énormément, c'était des piqûres, que ce soit en sous-cutané, en intramusculaire, antibiotiques, anticoagulants, parce qu'il y avait beaucoup de post-opératoires à l'époque, mais des post-opératoires qui étaient très simples. C'est-à-dire que les gens avaient passé 10 jours, 15 jours, par exemple, en service de chirurgie, et ils ressortaient, ils avaient quelques piqûres à faire, des pansements très très simples. À l'époque, c'était beaucoup aussi de toilettes, mais le cabinet dans lequel je travaille, les filles n'en faisaient pas. On n'en fait toujours pas d'ailleurs, parce que j'y suis toujours dans ce cabinet. On n'en fait pas parce qu'il y a un service de soins à domicile dans la ville où je travaille.
Ces prises en charge, ces différents soins, ils ont évolué ?
Complètement, je pense. J'ai essayé de calculer, de voir un peu. Je pense que ça fait à peu près 10 ans. Ça fait donc 17 ans que je suis en libéral. Alors, il y a des points positifs, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu plus, pas positif, on va dire gratifiant, qu'on est devenu un peu plus technicienne, à faire des dialyses à domicile, de la chimiothérapie. On a eu des gens avec des respirateurs à domicile, donc avec intubé sur une machine.
Comment aussi le patient vivait ces choses-là, en fait, que ces soins qui peuvent paraître un peu plus compliqués se déroulent chez eux et pas forcément à l'hôpital ?
Il y a les patients qui sortent très tôt avec multiples soins. Ils sont très heureux de sortir chez eux parce qu'évidemment, ils sont dans leur environnement habituel. On peut dire quand même qu'au niveau et alimentation et sommeil, on est quand même mieux chez soi. Et en même temps, quelque part, ils savent que c'est très compliqué à domicile. C'est-à-dire qu'ils nous en demandent énormément. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient capables, par exemple, je parle d'il y a 17 ans, 15 ans, il y avait un petit problème, ils ne se sentaient pas très bien. On leur disait, vous appelez votre médecin traitant, il va venir. Enfin, les médecins n'étaient pas débordés comme maintenant. Ils étaient vus par un médecin traitant, ils étaient traités, point, ou ils allaient à l'hôpital. Maintenant, il y a tellement de choses... Ils sortent avec tellement de choses différentes au domicile, on a une population qui est relativement âgée. Et là, ils sont très heureux d'avoir l'infirmière à domicile parce qu'on a eu maintenant un nouveau rôle. C'est-à-dire que maintenant, on est devenus des coordinatrices. C'est-à-dire que c'est bien, on nous a valorisés, mais il y a une perversité, c'est-à-dire qu'on est devenus des coordinatrices. Donc, on appelle le médecin traitant, on appelle la pharmacie, on appelle éventuellement le médecin de l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé obligatoirement à l'hôpital, il n'y a pas de dossier de suivi. On appelle la famille s'il y a besoin, on appelle la pédicure, on appelle la dermatologue, on appelle voilà. Et là, les patients, ils sont complètement heureux parce qu'ils seraient incapables de faire ces choses-là. Sauf que nous, évidemment, la coordination, c'est pas reconnu et c'est pas rémunéré. On est bien d'accord. Donc ça, par contre, c'est une sorte de perversité quelque part. C'est-à-dire que c'est très gratifiant pour nous, mais c'est des choses qu'on fait sur un temps personnel. On passe du temps, beaucoup plus de temps chez le patient, mais c'est pas rémunéré.
Et sur le suivi avec les médecins, l'hôpital notamment, quand vous dites qu'il y a pas de, vous n'avez pas de dossier patient, ça veut dire
Ça veut dire qu'on demande où on arrive, c'est-à-dire qu'on nous appelle, Trois quarts du temps, c'est le patient qui nous appelle pour dire « je sors de l'hôpital, je sors de la clinique, faut que vous veniez me faire un pansement, faut que vous veniez faire une piqûre, faut que vous veniez, enfin voilà ». On leur demande pourquoi on vient, mais ils disent ce qu'eux savent, ou ce qu'eux ont bien compris aussi, ou ce qu'ils ont bien voulu comprendre. Il y a tout ça, parce qu'il y a des pathologies très compliquées, où ils n'entendent pas obligatoirement, où ils ne veulent pas obligatoirement entendre ce qu'on leur a dit. Eux aussi, au fur et à mesure, les patients nous disent « mais alors moi, on m'a donné tellement d'informations, je ne sais plus ce qu'on m'a fait ». Alors des fois, ils comprennent des choses. Quand on est obligé d'appeler ou l'hôpital ou la clinique pour avoir l'information, on se rend compte qu'ils ont repris la moitié des choses, quoi.
Et le lien, comment ça se passe, votre relation avec l'hôpital ?
Il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est des patients qui nous appellent, ou alors c'est une infirmière qui nous appelle pour dire « voilà, c'était votre patient, il va sortir avec un nouveau traitement diabétique, nanani, nanana ». On n'a pas le contenu de ce qui s'est passé, mais on nous dit « voilà, c'est éventuellement la même insuline, c'est les mêmes soins, choses comme ça, point, et c'est tout ». Et après, s'il nous manque vraiment des renseignements, c'est nous qui rappelons dans les services. Donc ça, c'est sur le temps à côté de notre tournée. Mais quand même, tout est fait vite, hein. Donc à domicile, on se retrouve à gérer plein de choses, de différents domaines. En post-opératoire, on sait très bien que maintenant, tout est rapide, tout le monde manque de temps. On se retrouve avec des patients qui vont avoir des plaies d'escarre au talon. Parce qu'avant, il fallait masser les points d'appui des patients toutes les 3 heures. Enfin, moi, j'ai connu ça. Hein. Alors, je dis pas que c'est pas fait. Si, c'est certainement fait, mais peut-être moins souvent. On se retrouve quand même avec des gens qui sont aussi fragiles hein, et qui vont s'abîmer davantage, qui reviennent avec d'autres plaies. Donc, on va éventuellement soigner une plaie post-opératoire de fémur, je sais pas, et on va avoir une plaie d'escarre en plus, quoi. Parce qu'en fait, toutes les hospitalisations courtes ont quand même engendré plein de choses autour, en fait. On est aussi obligé de composer avec l'HAD, les prestataires de matériel, les auxiliaires de vie, qui sont obligés maintenant de donner des médicaments. Tout ce qui est, j'ai envie de dire, libéralisme entraîne quand même des choses. C'est-à-dire que les patients sont obligés aussi de prendre une présence verte en cas de besoin, s'ils chutent, s'ils machin, s'ils zunent. Avant, il y a quelques années de ça, on partageait les soins, ça se passait super bien. Maintenant, s'ils peuvent nous squeezer et prendre nos patients, il n'y a aucune gêne. Aucune gêne, quoi.
Oui, parce qu'en fait, l'HAD, donc l'hospitalisation
à domicile
est de plus en plus répandue, enfin augmente, parce que justement, du côté de l'hôpital, il y a cette volonté de réduire les durées moyennes de 6 jours et d'aller vers l'ambulatoire. Donc, on a à la fois des patients qui sortent avec différentes pathologies, donc avec différents soins à réaliser. Et il y a aussi une complexité en fait, des acteurs, avec effectivement une espèce de superposition d'acteurs.
C'est exactement ça. On se rend compte quand même que les patients vont voir plein de personnes différentes. Je ne sais pas comment ils vont s'y retrouver, eux. Ça va être très compliqué. Enfin, les patients, ils sont perdus et nous, parfois, complètement aussi. Hein.
Je suis infirmière diplômée en 2004. J'ai testé un petit peu plusieurs choses, en fait. J'ai travaillé de jour, de nuit, j'ai travaillé dans différents types de services. J'ai fait pas mal de chirurgie. Ensuite, j'ai changé, je me suis mise en tant qu'infirmière libérale. Et là, actuellement, je suis infirmière dans une boîte de prestations, en fait. Je coordonne les soins entre l'hôpital et la maison. Voilà, je suis infirmière coordinatrice pour organiser au mieux le retour du patient à domicile. Tout gérer au niveau de ses soins, faire le lien, faire un suivi et faire le lien entre l'hôpital et la maison. Donc c'est à la fois travailler avec le monde hospitalier et à la fois travailler avec le monde du libéral puisque j'ai contact avec les infirmières libérales qui s'occupent des patients. Donc moi là je suis sortie un petit peu des soins, je suis vraiment dans tout ce qui est gestion, coordination.
C'est un métier que vous connaissiez ou c'est quelque chose que vous avez découvert sur le tard
Pas du tout. Ouais. Ce métier, je l'ai découvert sur le tard, tout simplement parce que quand j'ai commencé à travailler, donc en 2004-2005, c'était pas du tout développé. Il n'y avait pas du tout ce type de métier. En fait, les gens rentraient à la maison, les patients rentraient avec une ordonnance et les soins étaient effectués par les infirmières libérales ou les gens restaient un peu plus longtemps en clinique ou à l'hôpital pour avoir leurs soins. Les sorties se faisaient plus tardivement. Donc en fait, quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout. Et je l'ai découvert réellement, c'était après, je dirais dans les années 2010 à peu près, c'était quand j'étais en tant qu'infirmière infirmière libérale que j'ai commencé à prendre en charge des patients. Donc moi, toujours dans le soin, j'ai commencé à prendre en charge des patients en libéral avec des prestataires.
Et du coup, ces prestataires, ils sont venus pour coordonner tout ça, pour le matériel, pourquoi en fait?
On fait appel bien souvent à des prestataires quand les soins au domicile sont quand même lourds et importants. Ça permet à l'hôpital de suivre un petit peu quand même le patient sans que le patient soit hospitalisé. Mais voilà, c'est lâcher le patient à domicile tout en gardant quand même un œil sur lui, en fait. Il y a plein de petites boîtes qui se développent, en fait, et qui s'ouvrent petit à petit et qui ont besoin aussi, ben voilà, de patients pour se maintenir en activité. Ils surfent un peu sur la vague.
Mais alors, du coup, l'économie de ce genre de structure, parce que là, vous êtes salarié. Le modèle économique, il repose sur quoi, en fait?
C'est une société privée. Et en fait, la boîte, elle fonctionne vraiment un petit peu comme pour les infirmières libérales, c'est-à-dire qu'on a des forfaits, on doit facturer en fait des forfaits de prise en charge aux caisses. Et donc, on se fait rémunérer comme ça. Et après, les infirmières, elles gèrent leurs soins, elles se facturent leurs soins. Ils ont créé dans les diverses caisses des forfaits très spécifiques pour les prises en charge, comme ça, pour les prestataires, en fait.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une superposition des acteurs, c'est-à-dire entre vous, les infirmières libérales, potentiellement les salariés de l'HAD, enfin, comment le patient il s'y retrouve aussi avec ces différentes personnes?
Alors, le patient est bien souvent perdu au milieu de tout ça. Le patient, lui, il se base essentiellement, voilà, il reconnaît son médecin, enfin le personnel qui va graviter autour de lui à l'hôpital ou à la clinique. Il reconnaît les infirmières qu'il a l'habitude de voir à son domicile pour faire les soins. Après, nous, on arrive là-dedans, en fait, il faut vraiment qu'on se présente aux patients. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de la prestation et il faut vraiment leur expliquer tout ça. Après, la superposition, bien sûr qu'il y a des superpositions, avec les autres boîtes de prestataires, c'est un petit peu, moi, le côté qui me déplaît dans ce métier, c'est un peu la guéguerre des fois des prestataires. On essaye de récupérer des patients, c'est bien d'avoir des prescripteurs qui nous sont fidèles et qui nous envoient des patients pour des prises en charge. Donc, il y a de la superposition sur ça. Après, avec les infirmières libérales, c'est vraiment un travail qui est complémentaire avec le médecin et l'infirmière libérale. C'est-à-dire que l'infirmière libérale, elle est déjà débordée parce qu'elle a de plus en plus de demandes pour effectuer des soins à domicile. Elles ont souvent des journées très très chargées, des journées à rallonge. Et en fait, nous, on leur simplifie la vie parce qu'on leur amène le matériel. Et puis voilà, dans les boîtes de prestataires, les personnes qui travaillent dans les boîtes, ce sont des infirmières, des diététiciennes. Donc en fait, on sait exactement ce dont elle va avoir besoin au domicile.
Quand vous étiez infirmière libérale, ces boîtes de prestations n'existaient pas ou moins? Mais du coup, c'est vous qui faisiez ce travail-là, du coup, tout ce travail de coordination?
Oui, on faisait, effectivement, c'était nous, oui. On faisait ce travail de coordination. Les soins qui sont mis en place avec les boîtes de prestataires, c'est vraiment quand même des soins relativement lourds, où les patients, c'est un confort pour eux d'être à domicile, mais c'est vraiment des soins, on n'en a pas 5-6 par jour.
Vous allez encore chez le patient. Est-ce que vous avez pu observer, par exemple, des fois, il y a des sorties qui sont trop précoces et qui d'ailleurs engendrent par exemple des retours à l'hôpital ou des choses comme ça?
Oui, les sorties de l'hôpital trop précoces, effectivement, il y en a. Alors après, ça peut être à la demande du patient, parce que si le patient est en soins palliatifs, voilà, il préférera peut-être être chez lui avec ses proches. Après, c'est vrai que parfois, c'est bon, bah voilà, en gros, il faut faire de la place à l'hôpital parce qu'il y a d'autres patients qui vont rentrer. Donc parfois, c'est vraiment, on a besoin de place, on fait sortir le patient, on sait que le patient est instable, on compte sur l'infirmière libérale, le prestataire qui seront là de toute façon pour faire le lien, pour vraiment, s'il y a un souci, le patient sera quand même géré. Mais parfois, c'est quand même compliqué, parce qu'à la maison, bon, même si ça s'est développé au niveau des soins, c'est quand même pas les infirmières, elles sont pas là 24/24, en fait. Alors elles sont appelées la nuit au besoin, mais parfois elles habitent loin, il leur faut le temps de revenir. Quand c'est les infirmières en milieu rural, elles sont pas, des fois les gens ils habitent dans des villages complètement isolés, elles peuvent pas être là comme si le patient était à l'hôpital. Il sonne, voilà, au bout de 5 minutes l'infirmière arrive, là c'est pas le cas. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu stressant, et pour le patient quand il n'a pas choisi, et pour l'infirmière aussi qui est sur le qui-vive aussi, quoi. Les prises en charge, parfois, effectivement, bah, parce que c'est pareil à l'hôpital. Les infirmières à l'hôpital, elles courent beaucoup, elles ont énormément de choses à gérer. Et donc, effectivement, il y a certaines fois où il peut y avoir des complications sans que ça soit voulu. C'est pas... Voilà, mais oui, elles peuvent pas faire... Enfin, elles font au mieux, en fait.
Quand vous disiez que le côté un peu économique, enfin, le côté concurrentiel, ça vous dérange un peu, mais ça se traduit comment? Comment vous le voyez, ça?
Ben, je le vois, par exemple, que nous, on nous demande de prendre en charge un patient. On le suit pendant, c'est pour des soins réguliers, on va le suivre voilà, pendant 6 mois. Même hospitalisé, on continue de suivre nos patients. On appelle régulièrement les familles, on prend des nouvelles, on suit un peu le processus, ce qui se passe. C'est aussi ça notre suivi. Et en fait, la personne sort de l'hôpital et on apprend finalement qu'à l'hôpital, c'est sans le vouloir. Mais bon, voilà, ils connaissaient pas la boîte de prestataires, ils avaient oublié que c'était nous, c'était pas noté dans le dossier. Et du coup, ils ont appelé un autre prestataire. Parce que le prestataire voit très bien que nous, on est en place à domicile et pourrait nous appeler pour nous dire, voilà, vous suivez la personne. Et en fait, non, le prestataire se met en place et donc, du coup, nous, on sort, entre guillemets, donc on perd la prise en charge du patient et c'est le nouveau prestataire qui sera en place à domicile. Et donc là, c'est un petit peu décevant, sans parler de vraiment... Il y a le côté concurrentiel, effectivement, mais il y a aussi, nous, bah, on a un rôle de suivi et donc on est un peu froissé voilà, de voir qu'on bah, ne pourra plus suivre cette personne. Moi, le problème, c'est que je suis de base vraiment infirmière. J'ai choisi ce métier pour le côté soignant, enfin, prendre soin, suivi. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce côté commercial qui se ressent, en fait, que ça soit à l'hôpital, ça se ressent partout, en fait. Et du coup, on en perd un peu l'essence de notre métier. Moi, c'est ça qui me pose souci quand je vois, voilà, qu'il faut se bagarrer pour garder des patients parce que c'est, après, c'est notre gagne-pain, mais enfin, c'est un peu dur, ouais, Et ça se voit partout. Ça se voit à l'hôpital, ça se voit en libéral, ça se voit partout. Notre patron, il ne nous met pas de pression à nous dire, voilà, il faut que ce mois-ci, on ait tant de patients en charge. Il nous dit quand on fait des bons mois. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est pas que ça me passe au-dessus, mais voilà, moi, vraiment, c'est encore une fois, c'est pas... Oui, moi, c'est vraiment plutôt le patient dans tout ça qui m'intéresse. Il faudrait quand même qu'on puisse garder... l'image que la santé, c'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain, c'est aussi, faut voir ça, quoi. Ça peut pas marcher comme ça, quoi.
Vous avez vu en milieu rural, est-ce que en fait on est vraiment plus en sécurité chez soi quand on est en milieu rural, loin des hôpitaux finalement?
Alors non, on n'est pas plus en sécurité, mais en fait ça dépend du contexte. Ce que je pense surtout, c'est qu'à l'hôpital, en fait, pour le côté en tout cas ambulatoire, il y a une espèce de généralité qui est faite où voilà, font des diagrammes, des statistiques en disant voilà, pour que ça soit pour telle intervention, les dents de sagesse, que ça aille de la petite intervention à la plus grosse intervention sur, mettons, des ligaments du genou, ils disent, voilà, toutes ces personnes-là, quoi qu'il se passe, en fait, ils viennent, ils passent la journée, ils sont opérés, ils passent la journée ici, ils repartent. Sauf qu'après, là où ils ont perdu une notion essentielle, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité. C'est impossible, ça. Je pense qu'on peut faire rentrer les gens à la maison, mais après, en fait, ça s'étudie au cas par cas. Des fois, c'est trop précipité et c'est mettre en danger vraiment la personne. On fait sortir le patient de l'hôpital, mais on a quand même un peu peur. Les prestataires sont surtout utiles quand c'est vraiment des gros soins à la maison. Parce que là, il y a besoin de suivi, en fait. Pour d'autres choses, bon, il n'y a pas forcément besoin de prestataires. Mais en tout cas, s'ils prennent des prestataires maintenant et qu'avant, ils n'en prenaient pas, faut bien se dire que c'est parce qu'ils ont besoin de nous, en fait. Parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu... On aimerait quand même garder un petit peu un lien avec lui parce que c'est quand même pas rien ce qu'il a, en fait. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là parce que c'est voilà. Les médecins, je pense que des fois, c'est pareil, hein, les médecins, ils n'ont pas vraiment le choix aussi, on leur impose des choses, hein, mais je pense que des fois, ils ont un petit peu peur, quoi. Ouais.
J'ai mal à mon hôpital, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve le 25 juin pour le dernier épisode consacré à l'hôpital de demain et plus globalement aux jours heureux du système de santé français. Avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, membre cofondateur du mouvement interhospitalier. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.